Salut les amis.
Salut, salut Charline.
Ah, moi j'ai adoré l'émission d'hier. Hein.
Alix Poisson était très pertinente.
En tout cas, elle a été bien sympa. Hein.
Bah,
ah bah votre petit duo ridicule là pour amener ça.
Alors Alex Vizorek, je vous laisse cuisiner.
J'ai regardé, Alex je poisson. Me suis marré cuisiner le poisson, elle est bonne. Félicitations.
Ah, mais
je demande pardon.
Super, bravo. Moi à sa place, je me lève et je me barre. Hein, je
ah bah
bien.
Non, figure-toi, parce qu'elle était très impliquée.
Je trouve qu'il y a un côté où tout à coup, bam, on lance un truc comme ça, on va et puis derrière comme ça, hop hop hop, on met sous le tapis des autres trucs qu'on va pas faire. Et voilà, voilà.
Je pense que vous avez tout compris au gouvernement. Le gouvernement expliqué par Alix Poisson.
Ah, c'est fort, ouais, ça, mon vieux.
Et puis, on est d'accord sur plein de sujets avec Alix Poisson et ça facilite les interviews aussi.
C'est vrai qu'elle nous a soutenus pour le FLNH. Hein.
Le FLNH.
Ouais.
J'espère que vous arriverez à libérer Nicolas.
Oui,
ah, oui
hashtag
oui,
free Nicolas.
Oui, en bref, ça donne une émission clairvoyante et engagée. Ben voilà.
Dieu sait si c'est pas facile avec vous. Hein.
Ouais. C'est Mélanie Bauer, bonjour.
Bonjour, et moi, aujourd'hui, je vous emmène à Budapest.
Mais c'est pas vrai. Attention, on a failli avoir un but des Danois. Excusez-moi.
Voilà, mais carrément, mais t'étais même pas dans l'émission. Alors,
c'est l'hôpital qui se fout de la charité.
Charline, admet que t'es passionné de foot
bah
aussi.
Oui.
Hein.
Tu sais, moi
bah oui. Cette pauvre Mélanie.
Je voudrais partir très loin, mais j'ai pas le but.
C'est une blague. J'aime bien faire cette blague pendant la chronique de Mélanie.
Enfin, mais pendant la chronique, mais quel manque de respect.
Non, mais on plaisante pas, Charline. Il faut trouver une solution pour que t'arrêtes d'interrompre l'émission pour les matchs de l'équipe de France.
Ah, bah j'en connais un qui a la solution.
C'est, ah bon
bah, il s'appelle Lionel Messi et a priori, il va la mettre en pratique samedi.
Ah, d'accord.
But de mais... Messi
oh,
c'est
oui.
La troisième fois que Yoris se retourne dans ce stade
là là.
Après-midi.
Arrêtez. Oh là là, les Belges, vous me fatigué.
Bonjour la France Inter, nous sommes le mercredi 27 juin 2018 et Jean-Marc Morandini est toujours maintenu à l'antenne sur une chaîne dite d'information. Nous avons un message pour la déontologie. Nous ne t'oublions pas. Le sujet qui enflamme la France, figurez-vous que nous n'en avons pas encore parlé. C'est la limitation à 80 km/h qui plombe la popularité du Premier ministre et qui a réveillé Laurent Wauquiez.
Et tous ces morts sur les routes. Moi, si ça continue, je vais rouler sur les trottoirs.
La guerre économique risque de nous priver de Jean Levis, de Bourbon Jack Daniels et de tous les autres produits auxquels l'impérialisme américain nous avait accoutumés. Quant à Harley Davidson, elle va devoir délocaliser sous peine de payer trop de taxes.
Eh ben, tu vas pas rester ici, ça coûte un max.
Les bouchers charcutiers réclament une protection policière face à la violence végane. Les bouchers sont tendus, c'est pas le moment de leur demander des tranches trop fines pour le jambon.
Okay. Je suis boucher, je pas crêpière.
Ça va, ça va.
Oh.
Ouais,
oh. Autre chose ?
Non.
Suivant.
Merci.
Au revoir.
Lui, depuis que, comme moi, il a découvert la morto, il a définitivement choisi son camp, n'est-ce pas ?
On est bien d'accord.
Eh
ça
oui.
Va, je vous
Alex
dérange
Vizorek.
Pas.
Bah
écoutez, leur propos tous les coups.
Si, justement.
Et une belle équipe aujourd'hui pour cette antépénultième de l'année. À 17h20, celle pour qui France-Danemark signifie surtout Voltaire-Kierkegaard. C'est Isabelle Sorand, bonjour.
Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler de transition.
De transition.
Oui, c'est transition dans lesquelles on se perd.
Formidable. À 17h30, celui qui, les deux dernières fois qu'il a pris des vacances, a écrit un roman sur la poésie et créé un groupe de rock en marche. On est très inquiets. À partir de vendredi, il prépare son exposition d'art brut basée sur la non-violence. C'est vous, Guillaume Meurice. Bonjour.
C'est prévu. Bonjour à tous. C'est bientôt la fin de la saison. C'est l'heure des bilans. Je suis donc allé voir les Français pour faire un bilan du gouvernement, mais aussi de notre équipe à nous.
Vous êtes sûrement formidable.
Ah, ouais, voilà. Je suis assez d'accord
c'est
avec ça.
De
bonne
clair
analyse.
Moyen, on verra.
À 17h40, enfin, celui qui un jour a admis avoir rencontré le génie contemporain, c'était la dernière fois qu'il s'est retrouvé devant un miroir. C'est Pablo Mirabeau.
C'était très agréable.
Oui, j'imagine.
Salut Alex, salut Charline, salut Isabelle. Monsieur gauchiste. Alors aujourd'hui, on va évoquer la haine contre les touristes ou ce que les Parisiens appellent oh, bah, un jour comme les autres.
Allez, je me tourne vers celui que nous avons invité à rejoindre cet open space. Vous avez tourné pour la télévision américaine dans la série Gossip Girl où vous incarniez le prince de Monaco, Louis Grimaldi. Vous avez aussi tourné pour une série pour la BBC, pour une autre série en Espagne pour la chaîne Antena 13. En France aussi, bien sûr, dans Chef notamment sur TF1 avec Clovis Cornillac.
France 2,
pardon. Oulala, excusez-moi.
On
évidemment, c'est le service public en plus. Et dans Baron Noir, ça, c'est bien Canal+.
C'est bien Canal+.
Voilà. Au cinéma, vous démarrez dans Toutes les filles pleurent de Judith Godrèche. Vous jouez notamment dans Ma première fois de Marie Castille, mention char. Vous êtes aussi scénariste et réalisateur. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Je suis Pablo.
Wikipédia, visiblement, vu la taille du CV.
Hugo Becker.
Ah oui, c'est lui.
C'est pas mal, hein.
France Inter. Charline Vanhoenacker. Alex Vizorek.
Par Jupiter.
Vous n'avez pas tourné dans les films que j'ai cités?
Si, si, mais bref, c'est pas très
grave. Ah, il y en a d'autres, je peux les citer.
Qu'est-ce si que vous non, aimez non, comme c'est pas ça, mais c'est, vous avez cité les tout premiers dans lesquels c'était une petite participation.
Lesquels vous tiennent à cœur, par exemple?
Le film de Duringer qui s'appelle Paradise Beach, qui va sortir en octobre.
Ah, il n'est pas encore sorti.
Ah ouais,
mais comment voulez-vous qu'on sache?
Vous faites le Marvel.
Donc un film de Xavier Duringer qu'on attend pour
octobre.
Pour octobre, d'accord. Et qui s'intitule
Paradise Beach.
Très bien, on a pris note. Hugo Becker.
Mais il est pas là pour ça en plus.
On pourra vous.
Absolument pas.
Bien sûr.
On pourra vous voir bientôt dans la deuxième saison de Au service de la France, qui est diffusée sur Arte du 5 au 26 juillet. C'est une série de Jean-François Alain, qui est notamment aussi le scénariste de SS 117. Ouais. Claire Le Maréchal et Jean-André Yerles. Alex Vizorek, je vous laisse avec Hugo Becker.
Ouais, j'ai regardé de la série d'Arte, évidemment. Alors, c'est pas un hasard si je vous dis ça, mais si pour les gens qui ne connaissent pas du tout, j'explique qu'au service de la France, c'est OSS 117 pour un télo, est-ce que j'ai bon?
Si Jean-François Alain était là, je pense que t'aurais tout faux. Mais si tu me dis parodie, ça me plaira pas.
Expliquez la différence. Ouais, ouais. Alors, ce qu'il a pas vu, apparemment.
Wikipédia, Pablo.
Moi, j'ai pas vu la série.
Le mot pastiche.
Hein.
Pastiche. Non, mais pas vraiment une parodie, OSS, mais un non, mais effectivement, oui, il y a clairement une âme d'OSS, effectivement, avec une relecture historique plus importante et une double lecture sur l'histoire de France, etc. Donc, ouais.
Donc, j'avais pas trop mauvais.
Parce que
la vraie histoire côtoie la fausse histoire. Évidemment, on croise Che Guevara dans l'épisode 1. On entend des sons d'époque, tout ça. Comment ça se prépare quand on est comédien? Est-ce que vous êtes plongé dans cette époque-là? On est dans les années 60. Est-ce que vous avez lu plein de trucs, essayé de découvrir ça? Ou est-ce que vous avez justement admis cette espèce de réalisme un peu fantasmé des choses?
Non, comme c'est un pastiche, justement, l'idée c'est vraiment d'être dans un univers très crédible et très réaliste et de tout jouer à ses premiers degrés pour créer des anachronismes. Donc non, les références étaient plutôt sérieuses, même si c'est une comédie. C'était par exemple La mort aux trousses, Le samouraï, en tout cas pour mon personnage. Donc voilà, c'est des références assez sérieuses paradoxalement, alors que l'univers en fait crée sans cesse des décalages. C'est un peu l'idée de la série. C'est assez rare. Moi, j'étais assez heureux de faire ça parce que on a assez rarement des univers aussi marqués, autant en termes de décor que d'esthétique.
C'est une série qui a d'ailleurs la réputation d'avoir beaucoup travaillé avec les véritables services qui ont pu visiter, sans prendre de notes, si je me souviens bien, les véritables bureaux, etc., pour avoir une forme de réalisme.
Absolument. Si on parle de l'histoire en tant que telle, on est un peu dans la cuisine interne justement des services secrets parce que il y a un colonel qui aurait eu des petits problèmes de collaboration pendant la
Léger, très léger,
très léger.
Ça peut arriver à tout le monde.
Lui, il a envie que ça reste dans les années 40 et d'autres gens pour des raisons plus personnelles ont envie que ça sorte, notamment vous et vous êtes prêt à tout pour faire éclore cette affaire de collaboration.
Ouais, bah en fait, en fin de saison 1, mon personnage était mort, enfin se faisait passer pour mort. Et en saison 2, il va effectivement essayer de faire ressurgir la vérité, de se venger du colonel qui est quand même, on peut le dire, un sacré salopard.
Voilà. Mais oui, c'est ça. Et j'avais une vraie question qui m'était...
Mais qui est un acteur génial, Wilfred Benaïch.
Oui, mais tous sont très forts.
Tous sont géniaux.
Et des visages qu'on voit pas très souvent, donc on plonge dedans assez facilement. Si on a aimé la saison 1, quelle est la différence de cette saison 2
Elle est vraiment très très différente à plein de niveaux, donc c'est délicat, je risque d'en parler pendant une heure, donc je préviens Pablo, tu peux couper ta chronique
secondes.
Tout de suite.
Moi je pars tout de suite.
Faites-moi 35 secondes.
En 35 secondes, je dirais que c'est très dynamique, c'est très rythmé, c'était un peu le cahier des charges de la saison 2, d'avoir toujours un univers un peu à l'anglaise, décalé, mais d'être plus deuxième degré que troisième degré, ce qu'il y avait en saison 1. Et je crois que chaque personnage évolue vraiment. Le rôle des femmes est assez intéressant parce que ça parle vraiment de l'émancipation de la femme.
Oui, parce que dans les postes de responsabilité, il n'y en a pas directement.
Hein ?
Il n'y en a pas directement dans les postes de responsabilité des femmes.
En saison 2, si.
Ça commence à arriver.
En fait, il faut voir qu'elle se rebelle,
notamment la femme du colonel.
Il faut voir la saison jusqu'au bout.
Ah oui,
mais ça c'est... On est quand même dans les années 60,
c'est la fin de saison pour moi aussi.
Justement, une période assez passionnante, parce qu'on est dans un entre-deux, on est avant mai 68, etc.
Exactement.
On est encore dans l'après-guerre et certaines valeurs traditionnelles, donc on est vraiment à un carrefour.
Non, honnêtement, c'est extrêmement bien fait, ça. Toute l'émancipation de la femme dans la série. Et chaque personnage évolue beaucoup. Le mien, qui était un personnage qui débarque, devient un personnage en fait qui devient plutôt un homme d'action, alors qu'avant c'était quelqu'un qui débarquait dans un service. Et l'ensemble des autres acteurs ont aussi des partitions vraiment superbes. Les situations comiques ne manquent pas.
Voilà. Une bonne série française, parce qu'on dit toujours que les bonnes séries viennent d'ailleurs, et bien non.
Et surtout sur Arte, elles sont toujours très bonnes. C'est de toute façon, c'est sur Arte du 5 au 26 juillet, au service de la France. C'est la deuxième saison, avec notre invité Hugo Becker, qui est en notre compagnie.
Et c'est tamponné.
Jusqu'à 18h.
Et double tamponné.
C'est validé, donc c'est
okay,
ça.
Ok, il peut rester.
Code verbeur.
Allez, il y a Pablo Mira en notre compagnie, Isabelle Sorrente, Alex et Guillaume. Can the Can sur France Inter par Jupiter, où nous sommes en compagnie de Hugo Becker, qu'on retrouve dans la série Au service de la France, deuxième saison, sur Arte pendant tout le mois de juillet. Et pour l'entourer, Alex ?
Eh bien, écoutez, il y a Isabelle Sorrente qui va nous parler de choses brillantes comme à chaque fois. Guillaume Meurice qui est parti,
un peu moins, je pense.
Sonder les Français. Ouais. Et Pablo Mira, alors là,
c'est
je
à
peux
moi,
vous dire, il va y avoir de la démagogie.
Non, là, c'est Alex Vizorek et c'est
brève. Ce sera après, ce sera
au fond.
Il n'y a toujours pas de pigé l'émission de Pablo, c'est gênant après trois saisons.
Allez, on y va.
En tarton, les pompeux, cornichons.
Le journal de presque 17h17.
Et on commence par les titres.
Hier, l'équipe de France a fait match nul contre le Danemark au terme d'une rencontre pour le moins soporifique.
Oui, au point que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s'envisagerait de faire vendre en pharmacie les DVD du match pour remplacer progressivement les somnifères.
Emmanuel Macron a annoncé que la France va accueillir une partie des réfugiés du Lifeline.
Eh ben, ça lui a fait du bien cette petite rencontre avec le pape. Si ça se trouve, à la fin de la journée, il va nous annoncer le doublement du SMIC, du RSA et des APL.
Est-ce qu'il y aura des brèves ?
Oui, parce que les brèves, ce sont des miracles du quotidien que nous devons tendre les bras sur Charline.
Oh, c'est beau.
Glou, 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 glou.
Et on commence donc par cette rencontre entre le pape François et Emmanuel Macron.
Oui, attention, il a tenté, Manu, une petite blague. Une petite blague quand il a présenté Jean-Yves Le Drian au Saint-Père.
Il y a des Bretons, lui aussi. Excellent. Il y a des Bretons partout, c'est sublime. Les Bretons, c'est la mafia française.
Les Bretons, c'est la mafia française. Alors que tout le monde sait que la mafia en France, c'est plutôt les informations suivantes.
Oui, c'est ça, voilà. Vous n'avez pas fini la blague précédente.
C'est
en
parce
revanche.
Que cet été, j'ai réservé en Corse. Et donc, voilà,
très bien, mais c'est embêtant.
Oui, c'est embêtant.
Alors, passons à Richard Ferrand.
Oui, Richard Ferrand. Lors de l'examen du texte de la réforme constitutionnelle à l'Assemblée nationale, le président du groupe La République En Marche a trébuché.
Je crois que tous les points de vue qui ont été exprimés augure bien de la richesse des débats. Et des dégâts sans doute, oui.
Et des dégâts sans doute. À ce niveau, c'est pas plus s'il s'agit d'un lapsus ou d'une profession de foi.
Économie. Oui. La Cour des comptes a mis en doute l'efficacité du plan Macron pour le redressement des finances publiques.
Oui, en revanche, si on interroge Lagardère, Pinot et les patrons du CAC 40, aucun doute sur l'efficacité du plan Macron pour le redressement des finances privées.
Allez, passons à Jérôme Lavrieux qu'on a retrouvé.
Oui, il était là ce matin, le député européen, mais surtout un des principaux protagonistes de l'affaire Big Malion. Il était chez Léa Salamé.
Comme j'ai un côté un petit peu taquin, je me suis amusé à regarder le nombre de personnes de l'entourage de Nicolas Sarkozy dans toute sa longue carrière qui sont mises en examen ou mises en cause dans des affaires multiples et variées. Je crois qu'on est à plus de 30-35 personnes. Donc si c'est pas de la radioactivité en politique...
De la radioactivité en politique. Et c'est vrai que Nicolas Sarkozy, c'est un peu comme l'uranium. Il s'est bien enrichi.
Région à présent.
Oui, dans les Pyrénées-Atlantiques, une consultation publique a été lancée pour que les habitants se prononcent sur le projet de relâcher deux ours femelles.
Oui, mauvaise nouvelle pour certains agriculteurs qui craignent pour leur cheptel.
Oui, mais bonne nouvelle pour les zoophiles qui ont le goût du risque.
Sport à présent. Oui. Donc hier, l'équipe de France a fait match nul contre le Danemark, mais les Bleus terminent quand même premiers de leur groupe.
Voilà, terminés premiers en ne montrant rien du concept. À croire que l'équipe de France, c'est la République En Marche qui les sponsorise.
Et un des autres matchs joués hier, c'était Argentine-Nigeria. Et Diego Maradona, présent dans les tribunes, a fait des doigts d'honneur, une sieste et un malaise.
Oui, à lui tout seul, il a fait plus de spectacles que pendant tout France-Danemark.
Allez, on attend les brèves.
Les brèves, évidemment. Deux polygames canadiens, dont l'un revendique 25 femmes et 146 enfants, ont été assignés à résidence par la justice.
C'est une fameuse punition,
ça. Eh ben, tu m'étonnes, les obliger à rester à la maison avec toutes leurs femmes et tous leurs gamins, ça leur fera les pieds.
Et
la dernière, à Marseille, un manipulateur déshabillé ses patients venus pour faire une radio. Notons que Jean-Marc Morandini fait à peu près la même chose avec des jeunes venus pour faire de la télé.
Merci Alex.
Mais de rien,
Charlie. Hugo Becker, c'est à partir de ce moment que nous changeons le monde sur France Inter.
Voilà. Ah, parce
qu'avant,
c'était
pour... C'est le moment où on trouve des solutions pour la France.
Okay.
Exactement, voilà. Alors,
donc, c'est le moment où il ne parle plus.
Pablo Mira, vous voulez dire ouais. Non, parce que lui, il ne change rien, mais ça va être tout à l'heure quand même.
Ouais, alors, je change mon compte courant quand même, Charlie.
Ça serait bien qu'il change de ton, je trouve, mais après ça.
C'est le sujet récurrent du moment. Ça, on ne peut pas dire qu'on n'aura pas été prévenu de la limitation de vitesse à 80 km/h sur certaines routes secondaires en région. Une décision jugée technocratique par trois quarts des Français. C'est donc encore politiquement une belle histoire d'élite parisienne contre les campagnes, nous dit-on, où la gendarmerie se prépare à sévir, bien sûr.
Oh oh allô, ici Chérubin. Chérubin appelle Poussin Bleu, répondez Poussin Bleu. Allô, ici Chérubin. Chérubin appelle Poussin Bleu, répondez Poussin Bleu.
Allô, ici Poussin Bleu, parlez Chérubin.
Elle est toute rouge. Hé, hey, chopez-la. C'est une grosse brème. L'épuisette.
C'est le gendarme Somary, bien sûr. Ça marche toujours. Hein.
C'est vrai qu'il est
extraordinaire.
Ce garçon-là,
le petit chauve là.
Ça fait penser au dialogue de Jean-François, hein, ça d'ailleurs.
Le créateur de la série Au service de la France, le scénariste Hugo Becker. Est-ce que vous arrivez à vous positionner sur le sujet? Ça fait quand même quelques semaines qu'on nous parle de la limitation à 80 km/h. C'est dans tous les journaux, partout, etc. Ça, c'est le sujet qui passionne la France. Est-ce qu'il est arrivé jusqu'à vous, ce sujet?
Moi, la seule voiture que j'ai, c'est une vieille voiture de 79. C'est une vieille Triumph Spitfire.
Qui n'est pas, de toute façon,
pas les 80. À mon avis, elle va au maximum à 90. Donc je vais être très peu concerné avec cette voiture. Non, en revanche, ce que je trouve assez drôle, c'est qu'on met des limitations, mais par contre, on continue à construire des bagnoles qui montent, qui vont à 220, 240. Donc forcément, tu montes dans une voiture qui va à 220, 240, bah t'as envie de tenter le truc. Sinon, tu te dis ça sert à quoi de voilà. Donc ça, par contre, on n'interdit pas, on encourage presque, je pense. Ouais. Et en revanche, on limite. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, on prend des amendes. Et puis on se retrouve avec 4 ou 5 points de permis comme moi. Donc voilà, à un moment donné, je trouve ça un petit peu limite. Ouais. Je trouve qu'on ne nous aide pas en fait à respecter ces règles. Moi je veux bien les respecter, ouais. Mais je trouve que c'est...
Mais le fait que la France tremble pour 10 km/h de moyenne, c'est-à-dire que sur un trajet de je ne sais pas, 30 bornes, on perd 4 minutes, ouais. C'est vraiment ça qui fait dégringoler la cote de popularité du Premier ministre. C'est quand même étrange.
Est-ce qu'on n'est pas un pays de cons, c'est la question en fait.
En tout cas, la sous-question.
Non, c'est sûr. Bah, en fait, je crois quand même qu'il y a un vrai impact en termes de sauvetage de vie. Hein. Je crois qu'il y a quand même,
c'est clair,
mais je crois que c'est une centaine, enfin plusieurs centaines de vies.
En plus,
en théorie. Mm-hmm. En théorie, quand même.
De gens qui auraient peut-être acheté des bagnoles qui vont plus vite. Hein,
voilà, exactement. Exactement. Mais non, mais c'est sûr que c'est un peu ridicule. Quelque part, ce débat est un peu ridicule. Mais honnêtement, je trouve qu'il y a une incohérence quand même entre mettre des limitations et laisser des constructeurs. Je veux dire, il y a un truc qui est très...
Vous aimez assez la vitesse? Je sais que vous roulez en moto.
Ouais, mais j'ai pas envie d'encourager les gens à faire ça. C'est pas une bonne idée. Mais je fais de la moto c'est sûr que je suis pas du tout un bon exemple. Mais donc j'ai plutôt tendance quand je suis dans mon coin à râler et à être très réac aussi.
Mais quand vous êtes à la radio,
je me dis putain, pourquoi ils nous emmerdent encore avec ces conneries. Mais en fait, je pense que quand même, c'est des réflexions qui sont un peu plus complexes que ça. Et, je pense que c'est intelligent au fond. Mais il faut qu'il y ait une cohérence sur l'ensemble, c'est tout. Et je pense que là, les gens se plaindront moins. C'est ces incohérences-là qui font que les gens te trouvent ça con. Si tout était cohérent, je pense que les gens se plaindraient pas. Ils diraient bah oui, c'est logique.
Je crois que là, il y a un autre problème qui est.
Non, Pablo, on a dit qu'il. Non.
Ah oui, c'est vrai.
Vous allez voir, attendez, regardez.
Alors, Isabelle Sorrente.
C'est dommage, c'était ma meilleure. J'ai mis un auteur sur le coup.
Pas parce que t'as mis un costume.
Moi, j'ai envie de savoir.
Vous avez mis un costume.
Allez-y, Pablo.
Non, mais j'arrête, Charline. Surjeu. Allez. Non, le truc, c'était. Pour moi, il y a un vrai débat derrière qui est le côté. Il y a un État jacobin qui prend une décision hyper technocratique à Paris qui concerne des gens qui. Pour la plupart, ceux qui seront concernés sont en province. Et ça se trouve, elle est bonne la décision, sauf qu'ils ont l'impression d'être dépossédés de leur un peu.
C'est jacobin, comme vous dites, toutes les décisions se prennent à Paris et elle concerne la région.
On pourrait peut-être même pousser les gens à prendre cette même décision, mais en
les manipulant.
Exactement, bien joué. Vous commencez à le comprendre.
Isabelle Sorrente, vous en trottinette, vous n'excédez jamais les 12 km/h.
Jamais les 6 km/h.
C'est bien ce que je me disais aussi. Alors, on peut vous laisser la parole, Isabelle, pour une chronique.
Oui, tout à fait. Alors, je vais vous parler de transition. La plupart d'entre nous connaissent ces tournants de l'existence où on a le sentiment qu'on n'est plus tout à fait la même personne qu'hier, mais pas encore celle que nous serons demain. C'est ce qu'on appelle les phases de transition. Chaque fois qu'un événement nous marque, chaque fois que nous prenons une décision importante, nous traversons ce genre de moment inconfortable et flottant où les anciens repères n'ont plus cours et où les nouveaux ne sont pas encore tout à fait définis. Et bien voilà, en milieu urbain, les zones de transit bien réelles peuvent être aussi perturbantes que les transitions psychiques. Au bout du second café crème à l'aéroport, du troisième magazine et du quatrième coup d'œil en direction des panneaux d'affichage, qui n'a pas eu le sentiment que son identité, pourtant plusieurs fois contrôlée, commençait à ressembler à un espace aseptisé et translucide. Sentiment angoissant dont distrait la surabondance des boutiques, comme si faire du shopping était la seule façon de tuer le temps de la transition. Le problème, c'est que tous les espaces urbains finissent en fait par ressembler à des zones de transit. Le cinéma Flambant Neuf, en fait, à côté de chez moi, qui m'a inspiré cette chronique, il a rouvert ses portes après un an de travaux, juste à côté de chez moi, donc il a tout d'une aérogare. Même tonalité grise, même hall immense, même odeur de café et de confiserie, et surtout, même réduction d'effectifs, même borne automatique où vous choisissez votre numéro de place, comme vous choisissez votre numéro de siège en train ou en avion, avant que la machine n'imprime votre carte d'embarquement contrôlée par l'hôtesse qui, pour le même salaire, sert aussi les cafés et les confiseries. La petite différence, bien sûr, c'est que l'escalator ne vous mène pas à la porte d'un avion, mais à celle de la salle où est projeté votre film. Bon, à part ça. Alors, mettons que le film n'était pas si mal, vous sortez du cinéma, mettons que tout va bien, vous décidez de passer à la poste avant qu'elle ferme, et là, vous êtes saisi par l'étrange ressemblance des deux espaces, même hall gris aseptisé, parsemé de machines qui permettent d'affranchir les lettres, mêmes effectifs raréfiés qui s'affairent entre les machines. C'est votre deuxième zone de transit de la journée, que faire ? Bien, vous postez votre lettre en recommandé avec accusé de réception après avoir renoncé à déduire le prix de l'affranchissement sur votre enveloppe prétimbrée parce que la machine ne vous dit pas comment faire. Bref, tout ça n'est pas bien grave, vous décidez d'aller au musée. Et là, mêmes escalators, même hall, mêmes effectifs réduits, même galerie marchande, même espace fonctionnel. Vous vous perdez dans l'anonymat du flux de visiteurs pour finalement faire un selfie devant un tableau, histoire de vérifier que oui, vous êtes bien réel. Oui, vous êtes bien dans un musée. Il ne vous reste plus avant de rentrer chez vous qu'à faire un peu de shopping, direction la galerie marchande, même espace gris fonctionnel, même gestion optimale du flux des acheteurs. Quatrième zone de transit de la journée, là au moins c'est clair. Hein. Personne ne vous demande de prendre l'avion, de regarder un film ou de regarder un tableau. Tout ce que vous avez à faire dans la zone de transit, c'est d'errer et d'acheter et d'errer. Alors vous rentrez chez vous avec le sentiment étrange d'être en manque de réalité et cette question qui vous taraude. Est-ce que les zones de transit qui sont censées nous mener d'un lieu à l'autre ne seraient pas en train de nous dévorer? Où va le flux humain? Où ont disparu les employés du cinéma et ceux de la poste et ceux du musée? Peut-on sortir de la zone de transit? Si oui, à quel prix? Où est le panneau exit? Des mots vous tournent dans la tête comme mobilité, flexibilité, délocalisation, employabilité, insensé, épuisé, vidé. Une vie de flux humain a-t-elle un sens? Vous y penserez demain. Parmi le flux de passagers, ça tombe bien, vous avez un train à prendre.
Merci Isabelle Sorrente. Vous vous sentez bien dans notre époque, non?
Ah, toujours extrêmement bien.
Ça tient merci. Avec France Inter ou absolument pas?
Absolument pas.
Merci absolument. Pour ce regard. Vous avez tellement raison. Même que les nouveaux théâtres, parfois, sont comme ça, comme vous avez décrit le cinéma.
Et
les opéras, exactement.
Ouais, on peut rendre le moment marrant, ça dépend, non?
On peut rendre le moment marrant. On fait des chroniques, on se dit
ouais.
Ça.
Isabelle oui. Sorrente, vous publiez d'ailleurs Spiritualité et engagement dans la cité, un ouvrage que vous avez co-écrit avec plusieurs co-auteurs, et c'est aux éditions Le bord de l'eau.
Absolument.
Pour tous ceux qui aiment vos chroniques, c'est dans la même tonalité, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Spiritualité et engagement dans la cité.
On peut acheter dans une librairie où il y a des escalators.
Oui, effectivement.
Bah non, on n'a pas diffusé dans celle-là.
Hugo Becker avec nous, avant de le voir dans Au service de la France, au mois de juillet, sur Arte. Étienne Daho, là tout de suite.
Les bombes, derniers adieux à l'autre monde, dans nos uniformes noirs et or, sur le dance floor. Dans vos uniformes noirs et or, sur le dance
Étienne Dao, vous l'avez reconnu, c'est après le Blitz. C'est sur France Inter, par Jupiter. Notre invité Hugo Becker, qui joue dans Au service de la France, deuxième saison. Et figurez-vous que le DVD est déjà disponible. C'est fou la chronologie.
C'est dingue. On a commencé l'émission il y a une demi-heure. Il n'était pas disponible. Et pop, c'est il sort en plein émission.
Ah ouais, tu me l'as dit, j'ai passé un coup de fil.
Avant même sa diffusion. Avant même sa diffusion sur Arte, à partir du 5 juillet à 20h55. Série de Jean-François Alain, Claire Le Maréchal et Jean André Yerles, avec notamment Wilfried Benaïch, Christophe Kourochkine, Bruno Pavio, Karim Barras, entre autres.
Marie-Julie Baup, Antoine Gouy.
Exactement. Ouais. Et Jean-Édouard Bodziak.
Et Jean-Édouard Bodziak.
Voilà, on salue tous les acteurs de cette excellente série sur Arte. Et à côté de vous, il y a le néanmoins excellent Guillaume Meurice.
Moi, je vais vous parler d'une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, qui devrait évaluer ses ministres. Il va les recevoir un par un pour un petit bilan début juillet. C'est ce que fait d'ailleurs Charline avec nous, hein. On le rappelle, et c'est ce qui explique que c'est la dernière chronique de Pablo aujourd'hui. Vous allez nous manquer, petit ange poilu parti trop tôt. Alors moi, aujourd'hui, j'ai voulu rendre hommage à ces ministres qui vont se faire évaluer par Manu. Moi, je peux l'appeler Manu, hein, parce que j'ai le bac, hein. Donc j'ai le diplôme, et puis je peux me nourrir tout seul. Je reviens du Franprix, hein. Donc c'est bon, je précise. Et c'est vrai que les ministres, on les taquine un peu, mais parfois, on veut leur bien. On a même fait une pétition pour Nicolas Hulot. Parce qu'on veut le sortir de là. On pense à eux. On les aime. Cœur avec vos voitures de fonction. Et, je veux dire même, les gens les aiment. Les gens aiment les ministres. Moi, je le sais, je connais les gens. J'adore les gens. Je suis un fou de gens. Je suis allé les voir ce matin. Et d'ailleurs, on commence avec un monsieur qui adore Gérard Collomb.
Je ne peux pas l'évaluer sur sa qualité de ministre. Mais j'aime bien ce genre d'homme-là. Mais ça, c'est personnel, ça n'a rien à voir avec sa fonction.
Ah, vous voulez dire physiquement ?
Non, je veux dire le personnage.
Non, mais il n'y a pas de souci, c'est vrai qu'il est pas mal. Hein. Si vous aimez les physiques un petit peu années 30, comme ça, c'est sympa. Si vous aimez vous faire peur en vous réveillant la nuit, bah, dormez à côté de Gégé sans vos papiers et revivez les grandes heures de l'histoire de France. Hein. Il dirait qu'il a un physique d'escape game, un peu Gégé. Allez, on passe à une dame. Quel est son ou sa ministre préféré ?
Peut-être la ministre de la Santé, je la trouve pas mal.
Alors, on se rappelle de son nom ?
Non, on se rappelle pas de son nom.
Ouais,
voilà. J'ai son visage un peu en tête, mais je me rappelle pas de son nom.
Si, c'est la dame, là. Ouais. Comment, c'est
Agnès.
Ils vont les médocs. Agnès, oui. Non, Jacqueline. Agnès, okay. On ne sait plus. Bon, Macron, il prend tellement toute la place, c'est vrai qu'on ne se souvient plus du nom du ministre de la Santé. En tout cas, ce qui importe, c'est pas le nom, mais bien entendu son action.
C'est difficile de dire pourquoi on aime ou pourquoi on n'aime pas. Non, mais je pense que jusqu'ici, les décisions qu'elle a prises sont pas mauvaises.
Laquelle, par exemple ?
Oh, je ne répondrai pas.
Ah.
Joker.
Il y en a tellement, peut-être qu'on ne sait plus.
Exactement.
Ouais, c'est vrai qu'elle fait tellement de trucs. Hein. C'est dur à suivre. Elle a fait tout.
Tout ça.
Oh, c'est infernal ce qu'elle a fait. C'est pour ça qu'elle laisse crever les vieux dans les EHPAD, mais elle n'a pas le temps pour Jacqueline ou Agnès ou Bernadette. Bon, allez, on continue avec les ministres préférés des Français.
Moi, j'aime bien Édouard Philippe, bien sûr, ouais. Le premier ministre. Mais j'aime aussi la dame, c'est Shapira. J'aime assez cette femme.
Shapira.
Je crois que je ne les connais pas, en fait.
Shapira, elle fait de la musique, non ?
Non. C'est le ministre de la famille.
Ah, donc c'est pas Shakira. Non, Marlène Schiappa, peut-être, ouais. Elle voulait dire. Alors, déjà, on ne dit pas la ministre de la famille, mais la ministre A, la famille. Et en plus, elle n'est pas ministre de la famille, Marlène. Elle est secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et du shampoing qui coule sur ses épaules, son ventre, ses jambes. Elle en a partout. Elle patauge dedans. C'est son titre complet. Donc, on ne sait pas trop qui c'est, mais elle l'aime bien. Alors, continuons avec une autre citoyenne.
Mon préféré, c'est Kester. Vous savez
ça ?
Kester.
Ben
bah oui, vous le savez. Kester, enfin, qui est toujours à côté du Premier ministre.
Castaner, peut-être.
Ah, voilà,
heureusement que c'est son préféré, mais c'est vrai que...
Kester.
C'est vrai que des fois, on aime les gens, on ne tient pas leur nom. Hein. On est tellement éblouis par le charisme. Voilà, ça peut arriver. Moi, ça m'arrive avec Alex Mobilette. Hein, donc, trop d'élégance, trop de classe, et bam, impressionné. Donc, cette dame, son préféré.
C'est lui. Il a 52 ans, il est bien, des beaux cheveux gris, vous voyez ?
Vous l'aimez bien parce qu'il est...
Ah, je l'aime beaucoup.
Oui, mais pourquoi vous l'aimez bien, alors ?
Je trouve qu'il se présente bien, il a réponse à tout, c'est pas mal.
Qu'est-ce qu'il a fait de bien ?
Eh bien, c'est-à-dire qu'il a fait de bien. Je ne peux pas me rendre compte personnellement, mais je veux dire, les questions au gouvernement quand il est à l'Assemblée, et je veux dire, il répond bien, vite, enfin... Il me plaît bien.
Oui, finalement, c'est vrai qu'on s'en fout de ce qu'il fait. Hein, il répond bien, il répond vite. Il donne la patte quand on lui dit de donner la patte. Finalement, on n'attend rien d'autre d'un labrador. Hein, il a un beau pelage, comme l'a rappelé la dame. D'ailleurs, la dame, elle aime aussi Nicole Belloubet, c'est la ministre de la Justice, ouais, pour une raison également éminemment politique.
Elle a des cheveux extraordinairement beaux. Elle devrait que se maquiller. Pas beaucoup, puisqu'elle n'est pas jeune, mais mettre un rouge à lèvres, un petit... Pas se présenter comme ça.
Ça, c'est le conseil que vous lui donneriez. Vous
elle a l'air intelligente, mais je ne sais pas si elle est là pour la justice. Ah. Parce que vous avez vu tous les gens qui sortent qui ne devaient pas, tous ceux qui rentrent qui ne devaient pas.
Alors, elle est valable ni pour la justice, ni pour se maquiller, quoi.
Ben oui.
Oui, c'est emmerdant. Mais elle a des beaux cheveux. Voilà, à la limite, on prendrait Jean-Louis David au ministère de la Justice. S'il se maquille, on est bon. Oui, c'est utile quand même de faire des bilans. Mais bon, je me dois d'être honnête, hein, quand même. Concluons et revenons sur le cas Gérard Collomb, parce que cette dame, elle l'aime pas des masses.
Il est tout voûté, il n'est pas... Il faudrait quelqu'un comme vous, voyez, mais...
Oh, moi, ministre de la Justice.
Oui, pourquoi pas, parce que déjà, vous êtes grand... Et puis,
pas si grand que
je
ça,
pense que vous devez être dynamique.
C'est vrai que je suis pas mal dynamique, ouais.
Et oui, ça se voit.
Eh ben ouais, bah c'est vrai que bon, c'est pas compliqué d'être plus dynamique que Gérard Collomb, hein, c'est pas un exploit. C'est vrai que même Vincent Lambert, il est plus dynamique que Gégé. Donc on va laisser notre Gégé et tous ses collègues. On ne change pas une équipe qui gagne tous les jours sa guerre contre les pauvres. Au ministre, les bons bilans, et à ceux qui les subissent, le dépôt de bilan.
Guillaume Meurice, merci. Vous êtes sur France Inter, vous écoutez Par Jupiter, en compagnie d'Hugo Becker, qu'on peut voir dans Au service de la France, la série d'Arte, à venir Pablo Mira. En attendant, voici cet autre sujet sur la guerre économique déclenchée par Donald Trump, qui a des conséquences surprenantes, notamment Harley Davidson, qui envisage de délocaliser sa production en Thaïlande, alors qu'elle était au Kansas, mais bon. Le prix en Europe du jean Levi's ou du bourbon Jack Daniels, qui va flamber, ça c'est le monde moderne.
L'argent ne connaît pas de frontières, le travail non plus. Tiens, regarde. Tu vois ce petit jeu là? Je l'ai acheté à Londres, sous marque allemande, fabriqué en Indonésie.
Par des enfants?
Peut-être. Mais je suis pas sûr que le monde dont tu rêvais aurait réussi à nourrir ses enfants. Notre international à nous y parviendra. Je travaille aussi pour ça.
C'est un extrait du film Le Capital de Costa Gavras, vous avez reconnu avec Gad Elmaleh. Donc l'Union européenne, elle impose des droits de douane aux produits américains en représailles à la décision de Donald Trump de taxer l'acier aluminium européen. Alors il y a donc voilà, il y a des produits américains dont les prix vont flamber en Europe. Il y a Harley Davidson qui est obligé de délocaliser. Alors ça faisait 150 ans qu'ils étaient au même endroit et que Donald Trump a été très élogieux au départ en disant voilà, il a qualifié l'entreprise Harley Davidson de véritable icône américaine. Et puis quand Harley Davidson a dit ben on va se casser parce que si on doit vendre plus cher en Europe, ça marchera plus. Donc il va falloir qu'on produise moins cher en Thaïlande. Donald Trump a dit une Harley Davidson ne devrait jamais être fabriquée dans un autre pays, jamais. Alors, vous qui connaissez un peu les États-Unis aussi, tiens, et qui aimez la moto, on s'est dit c'est un sujet pour vous. C'est fou, hein, comment on choisit les... Non, alors, est-ce qu'il y a des produits, il y a des produits américains?
C'est absolument pas réducteur, c'est parfait.
On est expert en économie.
Tiens, Becker, il aime la moto. Il y a un sujet sur les Harley.
Ça veut dire qu'on dit la même chose d'Estrosi. Ça veut dire qu'on s'est intéressé à votre parcours, quand même.
J'ai fait un film, d'ailleurs, où je joue un champion de moto. C'était assez rigolo. Avec Anna Mouglalis. Ouais, ouais. Bon, bref, c'est pas le sujet, là, mais.
Mais alors, il y a des produits américains. Est-ce qu'il y a des produits américains qui font partie de votre quotidien et dont vous seriez un peu embêté de vous passer?
Wow, si là vous me posez une colle, je me pose pas ce genre de questions. Je pense que si je peux revenir dans deux jours et
répondre. Le Jack Daniel's. Voilà.
Mais en revanche, pour répondre à ça, je pense que la réponse va pas être très très rigolote, malheureusement. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout ce qui fait obstruction au libre-échange, tout ce qui bride, je dirais, le libéralisme économique, ça fait tout de suite peur. En tout cas, en général, on trouve que c'est comme un retour en arrière, etc. Tout ce qui est protectionnisme, on trouve que c'est négatif. Je dis pas que c'est positif, hein. Mais en tout cas, ça a le mérite de poser aussi une question qui est assez intéressante, c'est comment on redistribue la valeur. Parce qu'en fait, on est dans un système où on est persuadé qu'il est que tout est parfait, enfin que en tout cas pas que tout est parfait, mais que c'est le plus logique. On nous persuade qu'en tout cas il y a pas d'autre possibilité que
celle-là. La manière dont ça fonctionne aujourd'hui. Ouais.
Bon, je suis pas la meilleure personne pour en parler, mais
non, si mais c'est vous en tant que citoyen,
voilà,
à votre avis.
Voilà, c'est un tout petit avis, mais comme vous me le demandez, je vous le donne. C'est plus sérieux que d'habitude, hein. Malheureusement. Je suis désolé, Pablo. Mais...
déception.
Mais
déception totale.
Non, je pense que ça pose vraiment une question de comment en fait comment on redistribue la valeur, parce que le libéralisme et le libre-échange finalement accentuent des déséquilibres très importants. Mmh. Et ces entreprises qui font ça et qui délocalisent, etc. J'ai l'impression que on va nous dire qu'il n'y a pas le choix, que de toute façon, c'est les personnes qui vont être licenciées pourront facilement se réintégrer, enfin, qu'elles doivent se réintégrer, etc. Certainement, mais enfin, ça, théoriquement, oui, on peut retrouver de nouveaux emplois dans le secteur des services, etc. Enfin, concrètement, il y a beaucoup de gens qui sont experts et qui sont artisans ou ouvriers experts dans leur domaine. Ils connaissent ce domaine-là, ils ont 30 ans de métier. On va pas leur dire vous allez faire du service à la personne demain et ça va être super. Donc bon, ça c'est c'est facile à dire, hein, je prétends à, mais je trouve que ce
l'idée c'est que Trump prend des décisions très cons finalement, parce que Harley Davidson c'est quand même un symbole.
Ouais, mais je pense qu'en fait c'est intéressant de se dire que il y a pas de décision évidente qui se dégage de ça, c'est un vrai sujet de réflexion, je pense.
Et puis Pablo, je pense que on parlait de la question des migrants qui est une autre question à propos des immigrés qui venaient par le Mexique la semaine dernière.
Oui.
Et on disait qu'il faisait des coups au fait électoralement, c'est intelligent ce qu'il fait, parce que là il va avoir les gens qui sont électorats et qui vont dire ah bah en fait il protège l'économie américaine et c'est Harley Davidson qui est pas patriote et qui va partir en Thaïlande. Donc en fait, il est en train de conforter son électorat, quoi. C'est pas malin économiquement, mais électoralement, ouais.
Voilà, on a abordé un sujet ardu.
Ardu, très ardu.
Grâce à
une chanson. Je pensais pas que Pablo pourrait dire quelque chose de sérieux.
On met un tonton David, on met un truc, parce que là, moi j'ai plus rien dans ma besace d'intelligence. Chez ma chronique.
Allez, il est 17h48, l'heure de donner la parole à celui que toutes les radios s'arrachent. C'est Chris Esqui.
Non.
Ah non, pardon, Pablo, pardon.
Non, quoi ? Ah ?
Non, pardon, j'ai juste confondu avec le lancement de celui qui va vous remplacer la saison prochaine. Donc je reprends. C'est l'heure de donner la parole à celui qui fut un temps, s'est cru, arraché par toutes les radios, donc c'est Pablo Mira. Et vous nous parlez aujourd'hui de la haine contre le tourisme, me semble-t-il.
Oui, Charline, un tourisme dit de masse qui a, c'est vrai, on va le reconnaître de suite, engendré 2-3 petits inconvénients sociaux et écologiques, mais rien de catastrophique si vous voulez mon point de vue. Alors ne parlons pas, comme j'ai pu l'entendre ici et là, de ravages du tourisme. Des ravages, c'est ce que provoque un tsunami géant ou le chirurgien de Rachida Dati. Pas de quoi donc justifier cette haine anti-touriste véhiculée dans de plus en plus de villes, il faut le dire, qui se plaignent d'être envahies par les vacanciers du monde entier, alors que franchement, c'est pas un drame d'être entouré d'étrangers. Robert Ménard vit ça tous les jours dans sa tête et il le vit très bien, Charline. Pourtant, ces touristophobes accusent, entre autres, le tourisme dit de masse de transformer la culture locale en folklore, c'est-à-dire en culture mise en scène et donc quelque part inauthentique. Mais là encore, c'est exagéré, je suis désolé. Oui, ça arrive qu'en Espagne, on tombe sur des gens qui dansent spontanément le flamenco en pleine rue, ou qu'en Turquie, on tombe sur une fillette de 8 ans qui fabrique spontanément un jean pour H&M. Le folklore. Et puis, pardon, mais ça n'a pas de sens de parler de tourisme de masse, selon moi, parce qu'il existe des formes de tourisme, oui, qui sont pour le coup toutes différentes. Alors il y a le tourisme culturel, c'est le fait d'aller visiter des monuments, il y a le tourisme sportif, c'est le fait d'aller dans un pays pour assister à un événement comme la Coupe du Monde, et puis il y a le tourisme vestimentaire, hein. C'est le fait, comme Alex, de se perdre dans des coins très très reculés de la mode. Il est revenu à la maison aujourd'hui. C'est simple, le tourisme, Alex, il a 1000 visages, bon, même si à la fin ça finit toujours par être celui d'un Allemand tout rouge avec un bob. Et pourtant, malgré cette richesse, l'hostilité à l'égard du tourisme grandit partout, comme à Ibiza, où à chaque été, les habitants préfèrent fuir leur maison et donc n'ont même pas le privilège de voir David Guetta mixer sans ses mains et sans talent. C'est une prouesse pourtant. Alors que le tourisme, au fond, c'est super. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, Charline, c'est la minute Laurent Deutsch, hein, de l'émission. Mais on estime que c'est un loisir, le tourisme apparu au 19e siècle, une époque où les étrangers découvraient Paris en entendant leur cocher hurler « Bon, tu vas l'avancer, ton fiacre, connard ! Tout ça, c'est encore de la faute d'Hidalgo ! Putain, j'espère que Zola, il va lui en mettre plein dans la gueule dans son prochain bouquin !» Et depuis cette époque, les humains sont accros au voyage, parce que le voyage, bah, c'est le dépaysement, Alex. Vous allez à l'autre bout du monde et vous prenez conscience que là-bas, bah, ils n'ont pas du tout les mêmes menus au McDo. Car oui, moi je vous apprends rien, mais on voyage d'abord à travers les saveurs. À travers les saveurs, un jour on déguste une pizza inoubliable à Naples et le lendemain on savoure une authentique gastro à Calcutta. Grâce au tourisme, on voyage dans l'espace, Charline, mais aussi on voyage aussi dans le temps. Mais si, pas besoin de DeLorean, il suffit de monter dans n'importe quel A380 desservant l'Arabie Saoudite et on fait un saut de 80 ans dans le passé. Alors d'ailleurs, le succès de ce loisir tient en un chiffre, Charline, chiffre impressionnant, écoutez, 10% du PIB mondial est lié au tourisme. 10% du PIB, c'est autant que ce que rapporte Christine Angot avec sa consommation d'antidépresseurs. Alors en France, il représente le tourisme 7,1% du PIB, mais moi je suis sûr qu'on peut faire mieux en faisant plus d'efforts avec les étrangers, les touristes étrangers. Et ça passe d'abord par des petits conseils. Par exemple, moi dès que je peux, je donne des bons plans aux touristes qui viennent à Paris et je leur explique aussi que voilà, il y a d'autres monuments que la Tour Eiffel ou le Louvre, comme ce d'ailleurs ce très beau mémorial ici à la Maison de la Radio qui rend hommage à tous ces mots 8 atrocement prononcés par Charline Vanhoenacker. Nous ne les oublions pas, Hugo. Voyez, c'est pas compliqué d'aider un peu mieux les touristes étrangers, même si bien sûr je suis conscient que pour nous ici en France, c'est pas toujours facile d'être serviable quand avec les Asiatiques il y a la barrière de la langue ou qu'avec les Africains il y a la barrière du racisme. Pour conclure, moi je soutiens le tourisme et je dirais aux gens qui s'apprêtent à partir en vacances là dans les jours à venir, profitez-en, voyagez, allez voir d'autres pays, n'écoutez pas les rabat-joie qui essaient de vous culpabiliser. Moi je vous demande que deux choses, savourez ce dépaysement et surtout, s'il vous plaît, n'allez pas à Barcelone où je vais 3 semaines avec 25 copains parce que c'est vrai que bon bah ouais il y a beaucoup de touristes désolé.
Merci.
Bon, on sait que Pablo est écologiste.
Ça on l'a compris. Ouais, merci Pablo Mira. T'es un thème un peu écolo bien sûr. Les bouchers charcutiers qui réclament une protection policière, ils se sentent menacés par les véganes.
C'est bien.
Je veux que tu présentes des excuses à Monsieur Roger tout de suite.
Ça jamais. Roger est un assassin, mais maman, elle exécute des vaches innocentes.
Mais t'es fou.
Mais qu'est-ce qui se passe là?
Il se passe que Chloé a tagué la vitrine du boucher, il a porté plainte.
Non, on va s'arranger, mais il va pas porter plainte. Mais pourquoi t'as fait ça?
Mais parce que les bouchers sont des ordures, papa. T'as déjà vu les images d'abattoirs sur internet? Comment ils tuent ces bêtes? Mais des pauvres animaux sans défense qu'on martyrise.
Mais t'as rien fait à toi, monsieur Roger, t'as rien fait.
T'as rien fait.
Mais de toute façon, vous m'avez piégé en venant à la campagne. J'ai rien demandé, moi, j'étais bien à Paris.
Normandie nue, le film de Philippe Le Guay avec notamment François Cluzet. Génial. Qui abordait justement ce sujet. Voilà, c'est une information qui nous a surpris hier et c'est vrai que les bouchers charcutiers ont interpellé le ministre de l'Intérieur en disant on se sent menacé parce qu'il y a... Non mais déjà...
C'est amusant parce qu'on imagine quand même les bouchers, on imagine plutôt un boucher, plutôt un mec costaud, bon il a...
Avec des armes blanches.
C'est pas vrai, c'est pas vraiment quelqu'un qu'on a envie d'emmerder globalement.
C'est sans doute de là
qu'il se plaint. Ouais, c'est assez étonnant.
Sans doute de là vient notre sourire. Il y a une boucherie qui a été vandalisée la nuit dernière à Angers. Certains militants qui brisent des vitrines, projettent du faux sang ou taguent les devantures des boutiques.
Et pour que les bouchers y aillent quand même, enfin se plaignent et demandent une protection, à mon avis, ils ont dû y aller costaud, quoi.
Ou alors c'est un coup de com' des bouchers.
Peut-être.
Vous croyez ça, vous, Guillaume Maurice?
Le complot des bouches.
Il y a plus facile pour attirer l'attention de...
Je suis un peu comme Guillaume, je pense que c'est un coup de com' des bouchers.
Ah, c'est vrai?
Ils sont en danger.
Moi, je pense qu'il faut... Autant sur tous les sujets, et je sais que ça se rejoint, parce que la consommation de viande rejoint les sujets écologiques, et je trouve que c'est hyper important de se poser les questions et de faire son bilan carbone, notamment. Pablo, j'espère que tu l'as fait cette année. Non, mais je dis ça en plus en déconnant, mais je suis assez sérieux, en fait. Mais je trouve quand même que sur la viande, je veux dire, personne ne dit rien aux véganes. Qu'on contrôle l'origine de la viande, qu'on essaie de limiter la consommation, que les gens soient sensibilisés à ça, etc. C'est une chose. Mais pour convaincre les gens, c'est pas en balançant du faux sang sur des vitrines. Je veux dire, limite, je pense que ça va créer des gens qui vont défendre le... Donc ils devraient surtout pas faire ça. Je pense que je comprends leur combat.
En militant,
mais...
en mangeant plus de viande.
Ouais, et puis voilà, exactement.
Mais surtout qu'on sait toujours pas qui a fait ça.
Et oui, on attend de voir si ça. Si
c'est
ça
vous, Maurice. J'ai un alibi.
Alex Vizorek, Hugo Becker.
Oui, Monsieur Becker. En fin d'émission, propose un sketch à l'invité qu'il découvre, un rôle que vous ne connaissiez pas.
Qui part de
l'actualité, c'est tous les jours. Là, ça part d'un fait divers. À Antibes, il y a un gars qui a repris un numéro de téléphone, sauf que l'ancien propriétaire du numéro, c'était l'un des plus gros dealers de la Côte d'Azur, et il a beaucoup de problèmes parce qu'il a beaucoup de demandes. Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit votre vie, qui est très compliquée en ce moment, Monsieur Becker, vous qui avez changé de numéro à l'instant.
Je suis payé pour ça ou pas?
Non, c'est offert.
Est-ce que j'ai un cachet pour le...
Décroche le téléphone.
Attends.
Il y a une sortie de lunettes.
Ah non, il y a des...
Allô, bonjour.
Salut frère, à combien tu fais le gramme de chocolat blanc?
Pardon, qui est à l'appareil là?
Ah, tu me reconnais pas, c'est Lolo.
Lolo?
Oui, c'est mon nom de code, Lolo la Moumoute.
Vous êtes qui exactement?
Bon, disons que je suis la daronne.
Je suis désolé, je comprends pas là.
Je suis la daronne de France Inter, j'ai besoin de chocolat blanc pour Nicolas Demorand.
Vous voulez quoi?
Il faut tout t'expliquer à toi, je cherche de la coke pour Demorand parce que je me suis rendu compte que parfois il était mou le matin à 7h15.
Quoi? Et Léa Salamé?
Ah, Léa Salamé, elle bosse déjà en télé, donc...
Je comprends rien, je raccroche.
Mec, mène-toi, j'ai une montée de rasera, là.
Putain, mais vous êtes qui?
Hanouna, ça te cause?
Ah, l'intello de la télé?
Yes, t'es chaud pour une livraison de 3 kilos d'extra?
Désolé, doit y avoir une erreur, là.
Je suis pas chez mon fournisseur habituel?
Mais non, moi, je suis étudiant, moi.
Et tu quoi?
Étudiant. L'école, ça vous parle?
Oh, ok, je raccroche, j'ai des nouilles à faire cuire pour mettre dans un slip.
Oh, putain, vache.
Bonjour.
Ah, enfin un appel normal.
Il me faudrait un truc super fort pour 11 mecs en short qui roupillent sur le terrain.
C'est vous, Didier Deschamps?
Sur le plan patronymique, c'est exact.
Attendez, j'ai un double appel.
Et t'es toujours en ligne, beau gosse?
Lolo, qu'est-ce que vous voulez encore?
Mais t'aurais pas de la bœuf?
C'est toujours pour Nicolas Demorand?
Ah non, là vous plaisantez, c'est pour moi.
Ah bon?
Non, je suis en train d'écouter le sketch consternant qui passe sur mon antenne et là, faut que je me détende.
J'en veux bien aussi, du coup.
Merci. Merci Hugo Becker de vous être prêté au jeu de cette émission. Il y a toutes les sauces dans lesquelles on vous a mis depuis une heure. Je rappelle que vous jouez dans Au service de la France. C'est la saison 2 de cette excellente série qui est diffusée sur Arte à partir du 5 juillet à 20h55.
Mais le DVD.
Et le DVD est disponible si vous n'êtes pas là au mois de juillet, que vous n'avez pas l'occasion. Série de Jean-François Alain, Claire Le Maréchal et Jean-André Yerless. Merci beaucoup. Merci à Pablo.
Hein,
malgré tout, merci à Pablo.
Plaisir, hein.
Merci Isabelle Sorante, Alex et Guillaume. Merci bien sûr à toute notre équipe. Bien sûr, il y a Marion Lelay à la réalisation aujourd'hui. À la technique, il y a Vincent Godard. Bien sûr,
non,
il y avait un reflet sur la vitre, je ne l'avais pas vu. Merci à Sarah Masson, à Nathalie Romero, à Alexia Lacour, Antoine Asdé et Frédéric Fromet. Demain, nous recevons Philippe Jaenada. Voici le mot de la fin au boucher charcutier menacé par les véganes et auquel on n'ose plus demander de trancher finement.
Je suis boucher, je suis pas crêpière.
Ça va.
Oh.
Ouais, oh.
Autre chose?
Non.
Suivant.
Merci.
Au revoir.